l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
C'est un génie que nous allons évoquer cette semaine dans l'épopée. Il fut guitariste, chanteur, producteur, chef d'orchestre. Il a fait paraître des albums essentiels dans l'histoire de la pop, du funk, du rock et même du jazz. Il nous a quittés le 21 avril 2016 à l'âge de 57 ans et sa disparition fut un choc pour nombre de ses admirateurs à travers la planète. Roger Nelson Prince était une icône planétaire, un personnage mystérieux, un artiste exceptionnel et fait l'objet d'un livre signé Ersin Lebovitch. Soyez le bienvenu.
Merci Joe.
Vous nous présentez aujourd'hui Prince Experience dans la tête du génie, paru chez Hors Collection Éditions. Et en suivant votre récit, on réalise que l'on ne savait pas tout de cet instrumentiste fabuleux dont vous tentez de dessiner le portrait psychologique, car nous sommes en présence d'un être torturé, perturbé, passionné. Est-ce que vous-même, vous avez redécouvert l'artiste en vous intéressant à l'homme privé ?
Oui, en partie, puisque Prince était un artiste particulièrement mystérieux et il entretenait ce mystère, notamment en faisant signer des contrats de confidentialité à tout son entourage et à tous ses musiciens. Donc lui ne parlait pas, les gens autour de lui ne parlaient pas non plus. Évidemment, depuis sa mort, les langues se sont déliées et on a pu découvrir un certain nombre de témoignages et apprendre beaucoup de choses que j'essaye d'explorer dans ce livre pour éclairer effectivement cet artiste exceptionnel et ce destin incroyable qui s'interrompt comme ça d'un coup et dont la mort a pris vraiment tout le monde par surprise.
Comme nous tous, vous le dites, vous avez été stupéfait quand son décès a été annoncé. C'est d'ailleurs le premier chapitre de votre livre.
Oui.
Est-ce que cette nouvelle fracassante a lancé finalement l'idée de ce livre ?
Non, pas sur le moment. Sur le moment, j'ai pensé que c'était faux. J'ai pensé que ça n'était pas possible. La personne qui m'appelle à ce moment-là, qui est à l'époque le chef des informations de France Info, mon ami Grégory Philips, m'annonce ça. Et sur le moment, je ne le crois pas. Je lui dis non, c'est un fake, c'est pas possible. Mort d'une overdose, en plus, ça paraît complètement invraisemblable. Prince était l'artiste probablement le plus clean de tout le show business. Il n'a jamais fumé une cigarette, il ne boit pas d'alcool. On raconte qu'il ne tolère même pas une tasse de café dans ses loges. Et là, on nous annonce qu'il est mort tout seul dans son ascenseur d'une overdose d'opiacé. Donc, dans un premier temps, j'y crois pas. Et puis ensuite, je suis bien obligé d'admettre la réalité de la chose. Et il a fallu des mois et même des années pour se dire mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Comment expliquer ça ? Comment a-t-il pu en arriver là alors qu'on connaissait tout le reste de son parcours et qu'on a tous été cueillis à ce moment-là, oui.
Il est évident que nous ne pourrons pas étudier l'intégralité de sa discographie, de ses frasques et de ses collaborations durant cette seule émission. Je vous propose donc de nous arrêter sur quelques épisodes marquants de son épopée en commençant par l'album ultime, Purple Rain, dont voici un extrait.
You never understand.
Nous avons choisi non pas Purple Rain, le titre phare de l'album, mais I Would Die For You, extrait de ce disque historique paru il y a 40 ans. Pourquoi présentez-vous cette production comme un marqueur de la destinée Prince, Ercine Lebovitch ?
L'album Purple Rain, c'est l'album du crossover, comme on dit. C'est le moment où Prince, qui a planifié ça hein, quasiment depuis le début, devient vraiment une star internationale, une pop star, voilà, à l'égal d'un Michael Jackson, d'une Madonna qui n'est pas encore tout à fait aussi connue que lui, mais qui arrive. Donc il brise toutes les barrières, ce qu'il a toujours voulu faire, notamment la barrière qui est très prégnante aux États-Unis des musiques noires, musique dite noire. Là-bas, il y a vraiment des catégories différentes et lui a toujours voulu y échapper. Dès son premier contrat, il exige qu'on ne le catégorise pas en artiste noir. Et il dit au ponte de Warner, qui le signe alors qu'il n'a pas 20 ans, « Don't make me black ». Ne me rendez pas noir, ne faites pas de moi un artiste noir. Donc là, avec Purple Rain, il atteint son but et il a vraiment planifié la chose. Son groupe, les chansons sont adaptées, il y a l'album, le film, la tournée à suivre. C'est un triomphe absolu et c'est là que le monde entier découvre Prince. C'est très bien d'avoir choisi ce morceau, je trouve, parce qu'il prononce une phrase que je cite en exergue de mon livre. « I'm not a woman, I'm not a man, I'm something you'll never understand ». Je suis quelque chose que vous ne comprendrez jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, on se pose beaucoup de questions.
Prince reste une énigme, disons-le. Oui, oui. Purple Rain est-il annonciateur du caractère obsessionnel, arrogant et perfectionniste de Prince ?
Ce qu'il est plus encore, je trouve, c'est le morceau que vous avez passé en ouverture de l'émission, Raspberry Beret, qui arrive sur l'album d'après Purple Rain, Around the World in a Day. Et cet album-là, Prince l'enregistre quasiment pendant la tournée Purple Rain. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est en train de travailler un projet ou de faire une tournée ou un album, il pense déjà à la suite. Et en réalité, Purple Rain aurait pu être exploité, entre guillemets, beaucoup plus longtemps. C'est ce que souhaitait d'ailleurs son label Warner. Mais lui a décidé quasiment d'interrompre la tournée, de ne pas prolonger le phénomène pour faire autre chose. Et cette autre chose, cet album Around the World in a Day, qui sort quasiment en catimini, très très peu de promotion, qui est une façon de dire au public, je ne suis pas seulement l'homme d'un disque et je ne ferai pas de Purple Rain 2 et je ne suis pas seulement une pop star, je suis un artiste. Et c'est ce que je fais à chaque album. Donc, quitte à déstabiliser un peu son public, mais c'est sa trajectoire qu'on peut comparer à celle d'un Miles Davis de ce point de vue-là, qui disait que c'était comme une malédiction pour lui. Dès que quelque chose fonctionnait bien, il fallait qu'il passe à autre chose.
Vous relatez très justement les travers du personnage dans votre livre, qui peut congédier une équipe entière s'il n'obtient pas satisfaction. Le voyez-vous comme un enfant capricieux, un artiste pétri de doutes, de contradictions, un dictateur hypersensible ?
Et un artiste génial, et un peu tout ça à la fois, oui, bien sûr. J'allais dire beaucoup de musiciens et d'artistes de cette catégorie-là. Ce sont des gens qui ont d'abord un cerveau qui fonctionne de façon quand même très particulière, qui ont une vision qui dépasse tout le reste. C'est-à-dire que tout doit être au service de sa musique et de sa vision, mais y compris chez lui-même. Prince est quelqu'un qui ne dormait pas, qui mangeait très très peu, qui n'aimait pas spécialement discuter. Enfin voilà, tout son temps, toute sa vie était consacrée à la musique. Capricieux peut-être vu de l'extérieur, mais enfin, pour un résultat qui dépasse tout.
Ce que vous dévoilez aussi, c'est cette boulimie musicale qui le pousse à produire sans cesse, sans tenir compte des contraintes commerciales, au grand dam de ses interlocuteurs chez Warner. Le meilleur exemple, c'est Love Sexy, un album invendable pour sa maison de disques. Pourquoi ?
Alors pour lui, c'est un album très important. C'est presque une épiphanie. C'est-à-dire que juste avant ça, il a fait le Black Album. Donc là, il est dans une période qui est très, très sombre. Il essaye de sortir un disque de façon anonyme en se disant « Voyons si les gens aimeront quand même ma musique, même sans savoir que c'est moi. » Et ensuite, il voit la lumière en quelque sorte et il décide de prendre le contre-pied et de se tourner complètement vers Dieu, vers le positif. Et c'est le sujet de l'album Love Sexy. Et quand il enregistre cet album et que vient le moment de le sortir, il décide d'abord qu'il n'y aura qu'une seule piste sur les CD qui sont à l'époque le format roi. Donc en radio, on commence à passer des CD. Et lui décide qu'il ne doit pas y avoir de tracks, quoi, de pistes différentes. Donc déjà, c'est impossible à jouer pour un programmateur radio. Joe Farmer, vous ne me direz pas le contraire.
Je suis d'accord.
Et en plus de ça, pour la pochette de l'album, il décide de faire une photo qui est prise par Jean-Baptiste Mondino. Et il est nu sur la pochette, pour symboliser donc ce renouveau, quoi, cette renaissance. Et ça, aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. Et par ailleurs, il décide qu'il ne tournera aucun vidéoclip, alors qu'on est en pleine explosion d'MTV. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Finalement, il se décide à tourner une vidéo, mais en dernière minute, donc en pleine tempête de neige à Minneapolis. Bon, c'est extrêmement compliqué. Donc l'album se vend très mal. Comme l'album se vend très mal, il se vexe un petit peu, il décide de ne pas tourner tout de suite aux États-Unis, mais d'inverser l'ordre des concerts, ce qui est un casse-tête énorme pour ses managers, ses tourneurs, etc. Donc ce sera un show vraiment fabuleux, hein, quelque chose d'exceptionnel, mais peu de gens l'ont vu en réalité, et commercialement, la tournée sera un échec, et les ventes de l'album aussi, même si c'est un chef-d'œuvre qui est totalement reconnu aujourd'hui.
Vous le dites, c'est un échec commercial, mais quel album, quelle audace. Voici Denson, extrait de Love Sexy. Denson, l'album Love Sexy de Prince en 1988, une œuvre magistrale qui sera pourtant un premier coup de semonce, car derrière cet aplomb du génie absolu, il y a le doute qui s'installe et un esprit qui fulmine devant les piètres réussites commerciales. Diriez-vous, Ersin Lebovitch, que le talent créatif de Prince fut son talon d'Achille ou sa bouée de sauvetage en termes économiques et stratégiques?
Je pense que ça a été un peu tout en réalité, c'est-à-dire qu'au départ, ce talent prodigieux fait qu'on le repère tout de suite et qu'évidemment toutes les portes s'ouvrent devant lui. Quand même à 18 ans, il a trois majors qui sont prêtes à le signer et c'est lui qui choisit, c'est lui qui pose ses conditions. Quand Warner le signe pour son premier album, on veut lui imposer un producteur, pas n'importe qui, Maurice White de Earth, Wind and Fire. Il se permet de refuser. On lui en colle un deuxième et il le rend fou jusqu'à ce que le type se barre. Et donc, c'est lui qui produit. Donc, ça lui ouvre toutes les portes. Il est reconnu très, très vite. Mais ensuite, il refuse de faire des compromis avec sa vision artistique. Et c'est là où ça commence à poser problème à son label. Donc, sur Love Sexy, on en a parlé. Mais ne serait-ce que dans sa productivité. C'est-à-dire qu'il est tellement productif. Il passe sa vie enregistrée. Lui, il veut que sa musique sorte. Et il est très insatisfait parce que Warner, qui est un label, a besoin
de prendre le temps.
Oui, et d'exploiter un disque. Je veux dire, on ne sort pas trois disques en même temps. Sinon, ça tue toutes les ventes, ça tue la promo, etc. Et donc, Warner, sans arrêt, le fait attendre. Et lui, il n'aime pas attendre. Il est extrêmement impatient. Et ça sera d'ailleurs le début du conflit avec son label qui va l'amener vraiment à une guerre ouverte avec Warner, dont il sortira finalement gagnant.
Dans votre livre « Prince Experience » paru chez Hors Collection Éditions, vous insistez sur les performances scéniques de Prince qui étaient ses bulles d'oxygène quand rien n'allait. Et pourtant, il y a peu de captations en public de Prince. Pourquoi ?
Ben, écoutez, on s'est demandé pendant longtemps pourquoi il ne sortait pas de concert, parce qu'il faut expliquer qu'il existe une discographie parallèle de Prince, parce que très vite, effectivement, les fans qui ont pu assister à ses concerts se sont rendus compte que c'était très souvent des moments vraiment exceptionnels, y compris des concerts improvisé, puisque dans sa frénésie de musique, il est capable, à la suite d'un grand concert à Wembley, par exemple, de faire un petit show dans un club à 2h, 3h du matin. Il en a fait plusieurs très très célèbres à Paris, notamment au New Morning, des concerts historiques. Effectivement, quand on le voit sur scène, on se rend compte de ça, et donc les fans ont commencé très vite à enregistrer les concerts, et donc ça circule, etc. Mais lui n'en a pas sorti jusqu'à One Night Alone, hein, c'est en 2002, je crois, que sort ce fameux coffret, qui est le premier live officiel de Prince, incroyablement. Alors que tout le monde sait à ce moment-là que quand on va le voir sur scène, on va probablement voir l'un des concerts les plus impressionnants de notre vie.
Comme nous respectons la légalité des œuvres officielles, nous allons écouter un extrait d'un album en public paru en 2002. Il s'agit justement de l'album One Night Alone, cette version frissonnante de Nothing Compares to You.
It's been 7 hours, 13 days since you took your love away. Since you took your love away, since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.
You sing it. Oh, is that right?
Nothing can take away this blues. No, no. Sing it, y'all. Nothing compares. Nothing compares to you. Ooh.
If you love her, show her now. Ladies and gentlemen, Candy.
Nothing Compares to You, Prince, en concert en 2002.
Quelle chanson !
L'une des prestations magiques du maestro, absolument, Ersin Ibovitch. Il y en a des dizaines d'autres, dont des after-shows qui s'achevaient au bout de la nuit. Les concerts du New Morning à Paris sont devenus légendaires. Il y en a eu trois, oui. En 86, 87 et 2010. Est-ce que vous avez assisté à l'une de ces prestations historiques ?
Et non, hélas, aucun de ces trois concerts. Pour celui de 2010, j'ai eu l'info, mais j'étais trop loin. Je le raconte dans le bouquin. Voilà, j'en suis encore frustré aujourd'hui. J'étais trop loin pour m'y rendre. Mais j'ai eu l'occasion de les écouter depuis, puisque, on peut le dire, ces enregistrements sont disponibles à l'écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux, on a accès à tout ça et c'est très bien, en réalité.
Eh bien, l'un de nos camarades de la rédaction de RFI, Loïc Bussière, était au New Morning le 22 juillet 2010. Bonjour Loïc.
Bonjour Joe, bonjour Ersin.
Bonjour.
Tout a commencé alors que vous vous apprêtiez à assister à un concert d'Éric Abadou.
Non seulement je m'apprêtais à assister à un concert d'Abadou, mais j'ai assisté à un concert d'Éric Abadou, fort sympathique, qualitatif, je dirais, au demeurant, mais qui n'a strictement rien, mais alors vraiment rien à voir. Est-ce qu'on peut parler de concert avec ce qui s'est passé après, d'ailleurs, pour le coup, avec cette nuit complètement incroyable du 22 au 23 juillet 2010.
Alors justement, racontez-nous ce qui s'est passé après.
Ce qui s'est passé après, un coup de fil d'un ami commun à qui justement je venais de m'épancher sur le résultat, en tout cas mes impressions du concert d'Éric Abadou, et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais à l'Olympia ce soir ? Viens au New Morning, je suis dans la file d'attente avec... pas mal de monde. Déjà, viens, rejoins-nous parce que c'est là que ça se passe. Je vous passe l'attente, effectivement. Je pense être rentré à 3h moins le quart du matin, effectivement, au New Morning, avec une sorte de soulagement et de me dire « ça y est, j'y suis, quoi, dans le sein des saints ». Et sur les notes de Stratus de Billy Cobham, donc un morceau jazz-rock fusion dans lequel Prince, dans une formation assez réduite, me faisait penser, on l'évoquait tout à l'heure hors micro, mais à Miles Davis. C'est-à-dire, effectivement, mettez en avant ces musiciens, tournez quasiment le dos, je crois, effectivement, au public, d'où ce parallèle avec Miles. Et on était vraiment purement dans la musique, mais le partage. Le partage, lui, avec ses musiciens et de ses musiciens avec le public. Il y avait une espèce de pont, de lien, de fil qui ne s'est pas brisé pendant quasiment 4 heures, que dis-je, parce que le concert, il a duré, effectivement, après... Je vous passe le nom de rappel parce que moi-même, je l'ai oublié. Et puis parce que physiquement, au bout d'un moment, on était quasiment à bout, quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la foule est sortie aux alentours de 6h du matin, dans un état à la fois de grâce et d'hébétude absolue, en se disant, est-ce qu'on a bien vécu ce qu'on a vécu ? Il faut savoir qu'on a quand même, entre guillemets, raccompagner Sa Majesté du Funk en faisant une haie d'honneur pour qu'il rentre, effectivement, qu'il s'engouffre dans sa limousine, non sans l'avoir écouté chanter en dernier, en ultime au revoir Purple Rain, dont il a changé les paroles et remplacé Purple et Rain par New et Morning. Et le tout était sincèrement sidérant. Tout ce que je peux vous dire, je pourrais vous en parler pendant des heures, ne serait pas à la hauteur du côté exceptionnel, musicalement et humainement, de ce moment.
Et sur scène, ça donnait ça.
So sexy, you want me from my head to my feet.
Ercine Lebovitch, comme je le disais en début d'émission, nous ne pouvons que survoler l'épopée Prince. J'aimerais que nous nous arrêtions un instant sur les enregistrements extra Prince, car ce producteur inspiré a aussi ravivé et révélé de nombreux artistes, dont Apollonia, Judith Hill, Chaka Khan, Sheila E., Mavis Staples, les Bangles,
The Time,
j'allais le dire, etc., etc. Tout est indispensable dans cette discographie parallèle ?
Non, tout n'est pas indispensable. Alors, c'est pas vraiment la discographie parallèle, parce que la discographie parallèle de Prince, ce sont les pirates de Prince. J'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment très important en termes d'enregistrement et de ce qu'on y entend, et qu'on n'entendait pas à l'époque ailleurs que sur ces enregistrements-là. Ça, effectivement, c'est aussi d'une certaine manière parallèle à sa propre carrière, parce que souvent il travaille dans l'anonymat. Ça vient à la fois de sa boulimie de travail, c'est-à-dire il peut pas s'arrêter, donc il a des chansons pour lui, il a des chansons pour d'autres, il rencontre quelqu'un, il a envie d'écrire pour eux, etc. Et le jour il est en studio, le soir il est sur scène, la nuit il va composer chez lui, puis le lendemain il va faire répéter un autre groupe, etc. Alors tout n'est pas indispensable, pour répondre à votre question. Je trouve, hein, après c'est une histoire de goût personnel, mais il y a des choses vraiment exceptionnelles. Hein. Le groupe The Time, qu'il a monté autour de son pote Maurice Day, qui est un copain d'enfance de Prince de Minneapolis, qui est batteur, qui est un très bon musicien, qui est un chanteur super, pour lequel il recrute d'excellents musiciens du coin. The Time est tellement bon que ça finit par menacer, enfin, Prince se sent menacé, et il va finir par les renvoyer, il va tuer ce groupe, peut-être pas simplement par peur qu'il le dépasse, mais dans le fond du fond, il y a quelque chose comme ça chez Prince, qui est, et il faut bien le préciser, c'est un enfant abandonné. Hein, il a été abandonné par son père, qui est parti. D'abord, ses parents étaient en conflit. Il a été ensuite abandonné par sa mère, une deuxième fois par son père. Il a une enfance vraiment terrible au niveau émotionnel, sentimental. Et
donc, il se sent en danger perpétuellement.
Oui, il est dans le contrôle en permanence. Et dès qu'il ne peut plus contrôler, il s'en va. S'il se sent menacé, il s'en va. S'il pense qu'on va le lâcher, il lâche le premier.
Ercine Lebovitch, un musicien quel qu'il soit, est toujours l'héritier d'une tradition musicale, d'une grande figure d'antan. De qui se réclamait Prince ?
Je dirais Miles Davis, encore une fois. Il y a peut-être aussi du Duke Ellington chez lui. Mais il se réclame surtout de tout ce qui précède, en réalité. Autant des Beatles que de James Brown, que de Joni Mitchell. Donc des chanteurs, des chanteuses. C'est vraiment l'homme musique dans ce sens.
Est-il aussi universel que Michael Jackson ?
Je pense qu'au cours de sa carrière, il l'était moins. Dans le sens où il a produit beaucoup plus de musique, mais il n'a pas produit forcément un album qui s'est vendu à 40 millions d'exemplaires et où tout le monde a un petit morceau de Michael Jackson chez lui. J'ai été assez surpris, j'avoue, à sa mort, du retentissement en fait, qu'a eu la carrière, la musique, tout ce qu'on a dit de Prince à ce moment-là, puisqu'avant, on avait quand même le sentiment qu'il appartenait un peu à un petit groupe de gens, hein, dont Loïc fait partie. Il y avait les fans, mais on n'avait pas le sentiment que la terre entière aimait Prince. Beaucoup de gens n'accordaient pas plus d'importance que ça.
Ce qui est amusant de noter, pour le coup, puisqu'on parlait de Michael Jackson et qu'on a souvent mis en scène cette espèce de rivalité, en tout cas médiatique, entre Michael Jackson d'un côté et Prince, c'est que sur les derniers concerts, notamment celui de New Morning 2010, eh ben, Prince, il reprend Michael Jackson. Il reprend Shake Your Body Down to the Ground, il reprend effectivement Want You Back, des choses comme ça. En revanche, il a cette...
Et Michael Jackson a repris aussi Prince
aussi,
sur scène.
Mais quand Prince reprend Michael Jackson, il a quand même cette exquise élégance de jouer, mais de ne pas chanter. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui chante. Effectivement, il fait chanter ses choristes. Choristes, chanteuses, parce que franchement, ce n'est pas vraiment des choristes. Mais lui, pour le coup, a une sorte de retenue, presque de pudeur, j'ai envie de dire, par rapport, effectivement, à l'estime, je pense, musicale et artistique.
Oui, Michael Jackson est mort à ce moment-là.
Oui.
Il est mort quelques temps plus tôt. Donc, c'est aussi un hommage dans le rôle du passeur, toujours. Et ça englobe toutes les musiques.
Quoi qu'il en soit, pour comprendre ce personnage énigmatique qu'était Prince, je recommande bigrement à nos auditeurs votre livre
«
Prince Experience dans la tête du génie » aux éditions hors collection. Et on vous retrouve régulièrement chez nos confrères de France Info en France, où vous officiez depuis...
Oh, 15 ans, quelque chose comme ça.
Ouais. Donc c'est quelqu'un de sérieux.
Pas toujours.
Merci Arsène Lubovitch.
Merci infiniment Joe.
Que diriez-vous de nous quitter avec un cours magistral de funk extrait de Musicology ?
Ah, je dis oui, Musicology, voilà l'album qui incarne le passeur. Musicology, tout est dit dans le titre.
Merci Loïc Bussière d'être passé.
Merci Joe Farmer.
Voici Prince en 2004. C'était Prince en 2004, il y a déjà 20 ans. Nous reparlerons forcément de ce grand personnage en 2025, puisque une comédie musicale inspirée de son album et de son film Purple Rain est en préparation. Vous viendrez nous en parler, cher confrère.
Mais avec
Lubovitch.
Grand plaisir, Joe, quand vous voulez.
Merci à vous. L'émission princière du jour était réalisée par une princesse, Nathalie Laporte, qui, je peux en témoigner, est une spécialiste qui accumule les enregistrements de ce regretté virtuose. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal. Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.